Le règne animal. Le nouveau film Événement de Thomas Caillet.
C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe.
Un choc absolu pour le Parisien. Un coup d'éclat ahurissant pour Télérama. Absolument bluffant pour Première.
Il y a des survivants, j'en ai vu hier soir.
Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos. Le règne animal, actuellement au cinéma.
J'affirme et je souligne que l'apprentissage possède la même valeur, mérite la même considération et doit conduire aux mêmes promotions sociales que l'enseignement général.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. On sait que Emmanuel Macron et ses gouvernements ont installé l'apprentissage parmi leurs préoccupations principales dans le domaine de l'éducation et de l'emploi. Et bien sûr, comme toujours, les controverses actuelles, théoriques ou concrètes, appellent un recul temporel. Voici plus de 3 siècles que cette question, qui est d'une grande portée sociale, suscite des controverses à la fois parmi les acteurs de la vie politique et économique et parmi les auteurs soucieux de réfléchir à sa place dans le monde du travail. Stephen Kaplan, professeur émérite à l'université de Cornell aux États-Unis, vient de consacrer à l'apprentissage un ouvrage impressionnant qui imposait que je l'invite. Il travaille depuis toujours sur l'Ancien Régime, la Révolution française et sur leurs traces jusqu'aujourd'hui. La chronique dans la longue durée du pain et des boulangers est l'un de ses sujets favoris, à la rencontre de son goût avisé des bonnes choses de chez nous et de son souhait de faire s'enrichir mutuellement l'histoire des subsistances et celle du monde du travail. Il était voué de ce fait à s'attacher à ce thème de l'apprentissage qui dépasse de beaucoup le seul champ de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes générations. Nous allons voir avec lui qu'il s'agit de l'élaboration des normes collectives, des représentations de l'enfance et de l'adolescence et enfin de la marche de l'économie au gré des formidables mutations technologiques qu'elle a connues. Nous allons retrouver dans ce domaine spécifique un débat insubmersible, celui qui oppose les thuriféraires d'un libéralisme omnipotent et ceux qui pensent que celui-ci, livré à lui-même, ne donnera jamais le meilleur des mondes possibles et qu'il revient donc à l'État, à ses lois et à ses contrôles, d'en réguler au profit de la collectivité les excès et les égoïsmes dans le présent et dans le long terme. Et le long terme, ici, c'est notre affaire.
Il fait bon chez vous, maître Pierre. Il fait bon dans votre moulin. Le froment vole dans la lumière. Et partout, ça sent bon le grain. J'avais 12 ans et j'étais haut comme 3 pommes. Quand me voyant, vous me disiez d'un temps bonhomme. Voyez-moi, ce sacré petit drôle, le métier lui semble à son goût. Prends ce sac, mets-le sur l'épaule. Maître Pierre, il fait bon chez vous. Hardi, hardi petit gars, bonnet sur l'œil et sourire aux lèvres. Hardi, tant qu'il y a de bras, un bon meunier ne s'arrête pas. Il fait bon chez vous, maître Pierre. Je me souviens de mes 18 ans. Votre fille était écolière.
que déjà moi je l'aimais tant, et quand plus tard je l'épousais devenue grande, tout le village est venu danser dans la grange, et toujours de ses grandes ailes, le moulin continue tout doux, le tic-tac de son cœur fidèle. Maître Pierre, il fait bon chez vous. Ardez, tant qu'il a de bras, un bon meunier ne s'arrête pas. Il fait bon chez vous, Maître Pierre. À 30 ans, j'aimais mon métier. J'adorais ma jolie meunière. C'est alors que vous nous quittiez. Hardy, Hardy petit gars, on est sur le sourire aux lèvres. Hardy, tant qu'il a de bras, un bon meunier ne s'arrête pas.
Steven Kaplan, bonjour.
Bonjour.
Comme vous voyez, j'ai choisi une chanson qui ne vous éloignera pas du domaine du pétrin qui vous est si cher, du pain. C'est une chanson qui s'intitule « Maître Pierre », qui était interprétée par Yves Montand en 1948 et qui était composée par Henri Betti pour la musique et par Jacques Plante pour les paroles. Cette chanson vous paraît bienvenue pour ouvrir notre conversation ?
Pour l'apprentissage, c'est un peu particulier, car c'est un lieu d'une très grande sensualité, avec le mouvement des meules, avec une vapeur de farine humide dans l'air. C'est un peu spécial, mais en même temps, on voit là tous les éléments d'un système qui contraint le jeune à se soumettre, qui organise la transmission du savoir, qui finit par une reproduction d'un système absolument crucial à la stabilité sociale et au développement économique, car c'est un métier stratégique quand même. Donc oui, le moulin, c'est un bon endroit pour commencer, sachant que n'importe qui ne peut pas rentrer dans ce moulin-là.
Il y a le mariage avec la fille du maître qui incarne une prolongation, une perpétuité, une intégration en tout cas.
Oui, le maître, c'est à la fois un type qui transforme, qui transmet. C'est quelqu'un qui est censé avoir des pouvoirs spéciaux. C'est un lieu intéressant pour commencer une histoire parce que c'est à la fois dans le monde du travail et puis dans un monde de l'imaginaire qui est assez extraordinaire.
Eh bien, pour ouvrir notre conversation, il faut bien sûr s'attarder un moment sur le cadre qui était celui de l'apprentissage dans l'Ancien Régime, depuis Colbert. Votre travail commence à ce moment-là. Pour voir comment l'apprentissage était, vous le dites, enfoui dans le système des corporations. Il faut que nous parlions des corporations qui caractérisaient, dans l'Ancien Régime, l'organisation générale du monde du travail.
Exactement. C'est le corporatisme, si vous voulez, est un système à la fois de classification sociale, d'exercice de pouvoir politique, d'organisation et de mobilisation permanente. Tout le monde est censé faire partie d'une corporation, le village dans son assemblée hebdomadaire, tout comme les métiers qui sont, pas tous, mais une bonne partie organisée en forme de communauté, comme on disait, d'abord des communautés morales, et puis des communautés économiques et sociales. Il y a énormément d'acteurs économiques en dehors des corporations, et il y a évidemment un apprentissage qui n'est pas accaparé rigoureusement par la corporation. Mais la corporation donne un modèle qui est imité un peu partout et qui domine toute la pratique et encore plus toute la théorie de l'apprentissage.
On peut parler d'une chaîne corporatiste.
Je crois qu'il y avait cette chaîne qui permettait aux gens de parler au roi. C'est une chaîne qui finit entre les mains du roi. L'image, la métaphore est utilisée constamment dans la rhétorique de l'époque. On verra plus tard que Turgot comprend très bien que s'il ne casse pas cette chaîne-là, il ne peut pas réformer la France.
Le mot de chaîne, d'ailleurs, est suffisamment ambivalent pour signifier à la fois celle du forçat et celle d'une continuité.
Exactement.
Pour signifier cela, on peut citer le chancelier Séguier, qui a servi sous Richelieu et sous Mazarin, et qui rappelait au roi qu'il était le gardien de l'univers corporatif. Il disait cela, « Tous vos sujets, sire, sont divisés en autant de corps différents qu'il y a d'états différents ». Dans le royaume, le clergé, la noblesse, les cours souveraines, les tribunaux inférieurs, les officiers attachés à ces tribunaux, les universités, les académies, les compagnies des finances, les compagnies de commerce, toutes présentes et dans toutes les parties de l'État. Des corps qu'on peut regarder comme les anneaux d'une grande chaîne, là voilà, dont le premier est entre les mains de votre majesté, comme chef et souverain administrateur de tout ce qui constitue le corps de la nation. Donc les corporations sont un des plus précieux ressorts du gouvernement, affirme-t-il.
Oui, et cette notion, cette théorie est sous-jacente à tout ce qu'on fait en économie politique. La vision panoptique de toucher tout le monde, de ramener tout le monde dans cette chaîne, de Colbert jusqu'à Necker, et même plus loin, est une force majeure dans tout ce qu'on discute. Et je crois que la perte de cette chaîne, l'appétit de ne pas renouer avec cette chaîne est ce qui inspire le libéralisme depuis le début. Cette chaîne, comme vous disiez, est une forme de, enfin, souligne l'ambiguïté entre le travail forcé et le travail libre, mais cette chaîne également est une chaîne qui constitue pour le roi la justification de sa domination sur le peuple, car il parle pour le peuple.
Il l'incarne.
Il l'incarne.
Ce système est certes oppresseur à certains égards, diminuant la liberté des uns et des autres, et en même temps, il est protecteur.
Il est protecteur, certainement il socialise, il permet à des gens de rentrer dans une logique, en quelque sorte, garantie, un mouvement de reproduction qui dit que si on est bon apprenti et bon compagnon, on va devenir maître. C'est un système qui est un garant de stabilité, mais un garant également de mobilité. Donc je ne crois pas qu'on pourrait dire tout simplement que c'est un système tyrannique, un système asphyxiant, un système étouffant. Et là, je n'épouse pas les thèses des corporatistes de la fin du XIXe siècle, encore moins de Vichy. Mais je crois que ce corporatisme est tellement attractif pendant tellement longtemps en France, parce que, justement, il y avait dedans des éléments positifs.
Une des inégalités tient au fait que les fils des maîtres, évidemment, sont traités de façon particulièrement tendre, ou spécifiquement favorisée.
Ils ont un apprentissage plus léger, ils ont une entrée à la maîtrise qui est quasiment garantie, mais n'oublions pas que 60% des gens qui deviennent maîtres ne sont pas fils. C'est-à-dire qu'il y a toute une mythologie d'une sclérose qui fait que le système est purement dynastique, le système est purement héréditaire. C'est faux. C'est un système relativement ouvert, c'est un système pourri par une corruption, hélas, très étendue, mais c'est aussi un système qui ouvre des possibilités à des gens qui sont de dehors.
Quelle corruption, vous pensez, pour l'Ancien Régime ?
De l'Ancien Régime en particulier, c'est-à-dire on peut acheter sa maîtrise, il y a une malversation en permanence, des formes de chantage pour que l'apprenti puisse sauter quelque part, il peut racheter son temps. Chaque corporation a sa constitution. Cette constitution est plus ou moins respectée en fonction de la volonté des administrateurs dits syndics ou jurés de faire obéir. Donc c'est un monde très bigarré, hein, un monde où il y a des gens très sérieux qui veulent que ça fonctionne honnêtement, et puis il y a des pourris.
Il y a un double regard possible. L'hommage rendu au maître est un peu mythologique. La mère aussi,
oui.
On traite très bien ceux qui viennent, qui s'assoient à la table du maître, etc. etc.
Oui, ben,
au contraire, en face, un regard sur une oppression à l'égard d'enfants ou de jeunes gens que l'on oblige à travailler.
Là où il faut se méfier surtout, ce sont des idéalisations qui sont assez ironiques. Il y avait des maîtres qui étaient gentils, et il y avait des maîtres qui battaient les apprentis. Moi, je connaissais et je connais des boulangers, des vieux maintenant, qui me racontent même dans les années 1930 qu'ils étaient battus, maltraités par leur maître. Mais je connais aussi des gens dans tous les métiers qui disent que leur maître était quelqu'un de merveilleux, et grâce à ce maître qui était compréhensif, attentif et surtout une virtuose du métier, ils ont réussi à se dépasser. Donc on a de tout.
Et c'était sûrement déjà vrai sous l'Ancien Régime, au moment où ce système est remis en cause par un certain nombre d'esprits libres dans le courant des Lumières. Et puis il y a le moment décisif, toujours si on considère les corporations, qui est la réforme de Turgot.
Ouais.
Plusieurs considèrent, c'était un mot cher à Edgar Faure, que si Turgot avait été écouté, on aurait évité la Révolution française. Il ajoutait même, parce que c'était un esprit fin, il ajoutait, il y avait deux personnes qui auraient pu empêcher la Révolution, Turgot, mais il était mort, et moi. Je n'étais pas encore né. Revenons à Turgot, pourquoi supprime-t-il les corporations et pourquoi échoue-t-il ?
Turgot a compris, il était génial. C'était quelqu'un qui était intransigeant, qui était rigide, qui était impossiblement ultra-libéral. Mais il a compris une chose fondamentale. Si je ne casse pas le système corporatif, si je ne casse pas l'apprentissage, je ne peux pas libérer la France, non seulement des anciennes contraintes, mais libérer la France pour que cette nouvelle respiration peut nous porter vers des accomplissements innombrables. Donc, il frappe là où il faut, mais en frappant, il crée des stéréotypes qui ont pesé énormément et sur le corporatisme et sur l'apprentissage. C'est-à-dire, l'apprentissage, c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est l'esclavage, c'est Alger, c'est pas Paris, l'apprentissage est inutile, il suffit d'aller 15 jours sur le lieu de travail et on peut arriver sans problème. Des notions reprises jusqu'à nos jours, cette attitude condescendante, méprisante d'ailleurs, qui prétend que le travail manuel n'est pas l'intelligence combinée de la tête et des mains, mais c'est une forme de sous-travail que n'importe qui peut faire. Ça commence avec Turgot, avec le libéralisme. On laisse tout le monde entrer au monde du travail, mais dans quelles conditions et avec quels résultats.
Pour évoquer l'importance de ce moment décisif de Turgot et son échec, écoutez donc la manière dont il est célébré en 1950. C'est à peu près le même moment que la chanson d'Yves Montand que nous entendions tout à l'heure. C'est un propos d'Émile Kahn qui était représentatif d'une sensibilité puisqu'il présidait la Ligue des droits de l'homme et qui rend hommage à cet édit de Turgot de 1776. Vous allez nous dire ensuite si ce compliment vous paraît équanime.
Les hasards d'une recherche m'ont fait relire les édits de Turgot. Chacun sait que Turgot, ministre de Louis XVI, au début de ce règne qui devait mal finir, tenta des réformes qui peut-être eussent épargné une révolution. Il croyait à la vertu de la liberté. C'est ainsi qu'il décida Louis XVI à supprimer les corporations ou, comme on disait, les jurandes et communautés de commerce, arts et métiers. Le préambule de l'édit de 1776 supprimant les corporations. Bien entendu, c'est Louis XVI qui parle, mais c'est Turgot qui a écrit. Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits. Nous devons surtout cette protection à cette classe d'hommes qui, n'ayant de propriété que leur travail et leur industrie, ont d'autant plus le besoin et le droit d'employer dans toute leur étendue les seules ressources qu'ils aient pour subsister. Ce que Turgot pose ici, c'est le principe de la liberté du travail. Ce que l'édit supprimant le privilège des corporations va permettre, c'est le libre choix du travail, idée et fait, qui triompheront 13 ans plus tard avec la Révolution française. Mais regardez-y de plus près. Turgot, doctrinaire du droit au travail, devance ici le 19e siècle, le dépasse, rejoint notre temps. Je vous disais bien que cette lecture est actuelle.
Le travail est un droit, Stephen Kaplan, et en même temps, est-ce une garantie qu'on en obtienne ce système ?
Mais justement, on peut comprendre l'idée de célébrer Turgot parce qu'il a libéré le travail, mais un travail sans encadrement, un travail sans organisation, un système de reproduction technique et sociale sans la moindre forme de régulation, c'est un miroir aux alouettes, c'est ouvrir la porte à toute forme d'abus, et ce n'est pas étonnant qu'au 19e, le corporatisme est regardé comme un danger. L'idée d'un revenant, c'était un cheval de Troie permanent. Donc chaque fois que chez les prud'hommes ou dans d'autres instances, en sous-bourderie, qu'il y avait là-dedans l'idée d'encadrer l'apprentissage et en quelque sorte de limiter le droit du maître à l'exploitation, à ce moment-là, on évoque Turgot, on évoque les Lumières, et on dit, on ne peut pas, c'est une régression, c'est terrible.
Je vous ramène, Stephen Kaplan, à la Révolution, puisqu'elle va incarner d'une façon très frappante, avec les lois d'Allard et surtout le Chapelier, elle va incarner cette conviction que la liberté, c'est essentiel, même si, à nos yeux, elle transforme les travailleurs en individus qui sont du même coup, plus facilement opprimés souvent que dans le système antérieur.
Oui, l'individualisme sans aucun contrôle illimité est certainement l'ennemi du travailleur. Ça, objectivement, on voit ça à travers tout le 19e siècle. Le Chapelier, c'est formidable parce qu'il dit très bien que désormais, plus de corporation, ni de côté patronal, ni de côté ouvrière, c'est-à-dire tout se fait de gré à gré. Il n'y a que l'individu qui existe.
Contrat individuel.
Voilà. Et il y a l'État qui est quelque part sur l'horizon, qui n'intervient pas, sauf un dernier recours. Et il y a des individus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de symétrie entre l'entrepreneur qui emploie 350 ouvriers et un ouvrier qui cherche à être employé. Et cette espèce d'asymétrie va miner toute la culture politique et toute tentative de penser la représentation sociale à travers le 19e siècle.
Peut-être pas toute la pensée. J'observe que dès le tournant du 18e et du 19e siècle, un homme comme Regnault de Saint-Jean d'Angély, qui était un révolutionnaire conservateur et qui a été le conseiller de Napoléon, observait ceci: la liberté dont la sagesse ne règle pas l'usage, dont la loi ne pose pas les limites, peut quelquefois devenir funeste. Et ça annonce déjà le fameux propos de Lacordaire, si important, une génération plus tard, entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
Oui, exactement. Et ce que disait Necker quand il avait réformé les corporations.
Après Turgot, alors.
Quand il avait tenté de sauver la mise. Turgot, donc, a supprimé l'apprentissage tout court, et Necker, quand il a récréé les corporations, parce que ce n'est pas les mêmes du tout, c'est un système bureaucratique, rationalisé, assez différent, il a refusé de rétablir l'apprentissage comme obligatoire, mais il a invité chaque corporation, en fonction de son genre de travail, de décider comment il faut faire. Mais il a dit toujours et constamment qu'il y a une espèce de guerre froide permanente entre les faibles et les forts, et que le rôle du gouvernement, c'est d'empêcher que cette guerre éclate, que cette guerre froide ne devienne chaude. Et il craignait constamment la guerre civile, qu'il a eue d'ailleurs quand il était au début de la Révolution française le ministre responsable pour l'ordre.
Il reste que Necker est renvoyé par Louis XVI, ce qui n'est pas sans conséquences graves. Alors venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à ce 19e siècle, tel qu'il se définit avec cette réflexion entre l'organicisme, avantages et inconvénients, et une liberté absolue qui oppose des individus qui sont en fait inégaux.
Oui, c'est la grande problématique et le grand paradoxe de ce France qui est constamment en train de régler l'héritage révolutionnaire. Est-ce qu'on peut se passer complètement d'un encadrement de la jeunesse. Est-ce que l'adolescence peut, de son propre chef, trouver son chemin? Il y avait, au nom de la liberté, des ignominies. Il y avait toutes sortes de justifications pour empêcher l'État d'organiser le monde social d'une manière plus douce et moins brutale. Je crois que les gens, notamment vers la deuxième partie du siècle, en pleine crise de l'apprentissage, il y avait une espèce de consensus embryonnaire en disant il faut s'en sortir.
19e siècle.
Oui, il faut garder certainement la liberté comme structurant, mais il faut comprendre cette liberté comme laissant une place pour une régulation éclairée et utile. Et là, il y avait un mouvement de renouveau de l'apprentissage dans les 30 dernières années du 19e, qui n'a pas abouti, mais qui a mis en question tout cet héritage qui disait que si on ne laisse pas faire, si on ne fait pas tout de gré à gré, la France va retrouver la tyrannie et l'oppression.
La loi est en retard sur cette pensée que vous évoquez et qui en effet se développe à la fin du 19e siècle, au moment des premières décennies de la Troisième République, qui entre deux guerres va avoir plus d'efficacité. On constate qu'il y a une série de lois, mais qui ne changent vraiment pas grand-chose. On peut les évoquer et c'est le temps effectivement où le loisir est laissé à peu près complètement au maître et au patron. Le maître devient patron, en fait.
Oui.
On lui laisse la possibilité d'utiliser au maximum du travail qui
est
gratuit, souvent, et qui se développe de façon, à nos yeux, insensée. Il faut attendre très longtemps pour qu'on interdise aux enfants de 10 à 12 ans de travailler plus de 12 heures.
Voilà, et en même temps, on trouve chez les prud'hommes un certain nombre de jeunes gens, très minoritaires bien sûr, qui osent dire aux prud'hommes, moi, j'ai le droit, moi, en tant que Français, depuis la Révolution française, de ne pas être maltraité. J'ai le droit d'avoir suffisamment de nourriture quand je travaille. J'ai le droit de quitter mon patron quand je veux, parce que sinon, on retombe dans les pires entorses de ce qu'on appelait le corporatisme. Quand les gamins disent ça, les juges des prud'hommes sont absolument interloqués, ils sont étonnés. Bon, c'est rarissime.
Les prud'hommes, c'est une réalisation qui, elle, remonte au début du 19e siècle, 1800, sous l'Empire.
Exactement, mais c'est une forme de nostalgie pour des solutions corporatives à des dérèglements, à des différends, à des conflits.
On commence aussi à créer, de façon limitée et timide, un corps d'inspecteurs.
Oui, ça marche très mal, et on ne voulait pas leur donner vraiment l'autonomie dont ils avaient besoin, l'autonomie financière et l'autonomie d'action.
Mais c'est important du point de vue de cet équilibre qui marque toute cette période l'ancien régime, c'est-à-dire entre l'affirmation d'une liberté pour l'individu qui peut, qui, vous le disiez à l'instant, qui peut être précieuse, et l'oppression que cela
a. Oui. Mais,
à cause de l'inégalité des contrats entre ceux qui contractent.
Mais avec les prud'hommes, on a la reconnaissance d'un statut à l'apprenti qui, depuis la fin de l'apprentissage, il n'avait pas. Les prud'hommes disent, il a des droits, quand même. La loi de Germinal, en 1803, ne reconnaissait pas l'apprenti. Il était des petites mains, il était un petit ouvrier. Mais les prud'hommes, en arrivant de façon elliptique, d'abord à Lyon, puis ailleurs, arrivent dans une espèce de grande surprise. Il n'y a pas encore des précédents, il n'y a pas encore un corps législatif. Donc il y a certains prud'hommes qui sont extrêmement interventionnistes et qui étonnent par leur volonté de recadrer les maîtres.
Oui, Lyon, vous le dites, Lyon 1806, mais il faut longtemps pour que les prud'hommes arrivent à Paris.
Ça, exactement. C'est dans les années 40 que ça arrive à Paris. Il y a une grande résistance de la part des entrepreneurs et des lobbies extrêmement robustes pour empêcher cela.
Il demeure, Stephen Kaplan, que de façon à certains égards clandestine, mais perdure la tradition des compagnons, le Tour de France, l'accueil, etc. Et on le voit, par exemple, dans les écrits d'Agricole Perdiguier ou d'autres, il y a les ramoneurs qui viennent de Savoie, les maçons qui viennent du centre de la France, etc. Écoutez donc cette chanson qui précisément évoque la manière dont un compagnon du Tour de France peut être accueilli dans les familles où il va, et ça remonte là, au 19e siècle.
Amis, on vante le plaisir que sur le Tour de France, nous goûtons seuls en nos désirs dans maintes circonstances. Mais le plus parfait, celui dont l'attrait charme le plus un frère, c'est quand réunis de nouveaux amis l'accueillent chez la mère. Chaque frère au premier rappel autour de toi se presse. Pour toi le couvert fraternel à la hâte se dresse. Le saut des bouchons, le bruit des flacons dont la liqueur pétille témoigne soudain que ce jour enfin te retrouve en famille. Bientôt la chanson du dessert au récit du voyage succède et chacun de concert au devoir rend hommage. Puis le lendemain, l'arc du chagrin, nouveau plaisir sans doute pour notre arrivant qui, le cœur content, reste ou poursuit sa route.
Aujourd'hui encore, Stephen Kaplan, on constate que les compagnons du devoir sont en tête parmi les ceux qui organisent la formation en alternance, jusqu'à 31 métiers différents.
Il faut souligner justement le rôle, notamment depuis qu'ils ont admis les filles, qui est une très bonne chose. Et il reste un des organismes formateurs les plus importants en France. Il faut dire qu'ils sont venus de loin, car c'est seulement avec Père Didier que cet anticorporatisme devienne un mécanisme de formation. Donc les compagnons qui, au lieu de se bagarrer, parce que c'était pour cela qu'ils étaient connus pendant l'Ancien Régime, ils se retrouvent chez la mère, comme disait la chanson, pour apprendre le dessin, la géométrie universelle, comme il disait aux gamins. Et cette habitude-là est reprise par les compagnons de devoir aujourd'hui, et je crois qu'il y a d'autres obédiences dans le compagnonnage qui aujourd'hui jouent un rôle très positif.
Il reste que l'apprentissage dans ce 19e siècle ne marche guère. C'est vraiment le siècle le plus sombre. Quand on réfléchit à la difficulté, aux échecs de l'apprentissage, alors évidemment, on recherche les raisons. Est-ce que c'est la faute des parents? Est-ce que c'est la faute des patrons? Est-ce que c'est la faute des ouvriers eux-mêmes qui traitent mal les jeunes enfants en apprentissage?
Il faut d'abord souligner et ne pas oublier qu'il y a ces grandes mutations économiques, technologiques. Il y a l'industrialisation, le machinisme, il y a l'intensification de la division du travail. Tout ça transforme le paysage de manière dramatique. Mais paradoxalement, c'est souvent ces mêmes forces qui rentrent dans l'atelier et qui font en sorte que c'est souvent l'usine qui devient une pépinière de formation, de l'apprentissage. Toutes les cartes sont mises en question, tout le système, et on a à la fois beaucoup de confusion, beaucoup d'une espèce d'anomie générale, et puis une montée un peu hystérique des critiques, des moralistes, et des réformateurs qui disent « qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes gens ? Ils vont devenir des apaches, c'est-à-dire des truands, des petits criminels. Ils vont devenir des agents antisociales qui vont miner la société. » Il y avait un réel questionnement. Le questionnement était cristallisé en deux camps, plus ou moins. Le camp de ceux qui disaient « il n'y a que l'école qui puisse vraiment ramener l'apprentissage à une forme d'expression utile ». Et de l'autre côté, il y a leurs critiques, notamment venant du monde du travail et non pas du monde des salons, qui disent c'est que à l'atelier où on peut apprendre un métier. Et cet affrontement entre l'école et l'atelier va marquer le dernier tiers du siècle, et c'est assez intéressant parce qu'il y a des tentatives de synthèse. Il y a des efforts de dire on peut faire l'école dans l'atelier ou on peut faire l'atelier dans l'école. Or, il y a des contraintes financières, il y a des contraintes logistiques. On ne peut pas mettre une machine à vapeur dans chaque école. Il y a toute une série de problèmes. Mais il y a une prise de conscience, c'est qu'on a des centaines de milliers de jeunes gens qui ne sont pas formés. On a énormément de gens qui sont en apprentissage, on croit, mais puisque le contrat n'est plus écrit, sauf pour des cas très minoritaires, c'est un contrat verbal. Et dans ce contrat verbal, souvent, les parents croient une chose et le maître dit autre chose. Et il y a là des affrontements que même les prud'hommes, les plus malins, n'arrivent pas à réconcilier.
Et ça laisse des situations dramatiques et oppressives, bien sûr. Écoutez cet extrait des mémoires d'Antoine Silvert, enfant auvergnat, qui a écrit des souvenirs sous le nom de Toinou. Il a eu une vie très, très compliquée, très, très, très heurtée. Et il évoque le temps où les apprentis servaient d'écureuil dans une cage pendant des heures. Antoine Silvert, 1930, c'est une lecture de Anne Rodger dans Les chemins de la connaissance de Jacques Munier et Anis Clément sur France Culture, le 1er janvier 2004.
Il n'y avait qu'un apprenti dans le pays. C'était le fils Calonnier, qui avait 14 ans. Son père l'avait placé chez le Boudre, le mécanicien de la rue Haute. Depuis un an, le jeune Calonnier apprenait l'état de mécanicien. Jusqu'alors, son rôle essentiel avait consisté à fournir l'énergie motrice nécessaire au fonctionnement du tour et de la machine à percer. Dès le matin, le Boudre l'enfermait dans une cage d'écureuil que le garçon animait par un mouvement continu d'ascension. Dans sa journée, il fournissait un nombre considérable de kilogrammètres et à la fin de chaque semaine, il recevait, à titre purement gracieux, une pièce de 10 sous que son patron lui jetait négligemment en lui disant « Tiens, voilà pour faire le jeune homme, sacré bougre de trop payer. » Le père Calonnier avait voulu protester. « Si t'es pas content, t'as qu'à le reprendre. Je vais pas instruire ton gamin sans y trouver mon compte, non ? Il fera comme j'ai fait quand j'avais son âge et il saura le métier quand son temps sera venu. Si ça te plaît pas, c'est le même prix. » Antoine Silvert, toi nous, le cri d'un enfant auvergnat.
On retrouve là, Stéphane Kaplan, le grand débat sur la responsabilité dans ce système libéral à tout craint des différents partenaires. Est-ce que c'est le patron ? Celui-ci n'est pas sympathique. Ou est-ce que ce sont les parents ? Père Calonnier, en l'occurrence, est-ce que ce sont les ouvriers qui traitent mal les apprentis ou les apprentis eux-mêmes qui deviennent, comme vous le disiez, dévergondés, qui deviennent des apaches ?
Oui, je crois que l'argument, le débat est difficile à trancher. Le mauvais patron, est appelé spéculateur. Lui, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il cherche à trouver du travail à bon marché. Donc, il embauche des dizaines d'apprentis. Il n'apprend rien, ou il les apprend un seul geste répété. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelait l'éparpillement du travail. Il y avait le refus du maître de donner un métier. Cette notion, on l'a eu déjà à plusieurs reprises dans des chansons. Je veux un métier. Or, avoir un métier, ça veut dire maîtriser toutes les étapes d'un travail, d'une production, d'un objet ou d'un service.
Le malheureux enfant écureuil, évidemment, ce n'est pas
voilà.
Son cas.
Or là, le patron spéculateur, donc il fait pas l'apprentissage. La famille est le bouc émissaire de tout le monde. La cupidité s'empare des parents.
Faire payer les enfants qui travaillent.
Et l'idée, c'est que les parents poussent les enfants à sortir, à ramener de l'argent. Les parents sont dépeints comme indifférents au sort de leurs enfants. Et il y a même des types comme Greillard et Antime Corbon, des réformateurs qui connaissent bien le système éducatif, mais peut-être pas l'atelier, ne cesse de dire que les parents sont des alliés objectifs des spéculateurs des patrons. Puis il y a des ouvriers, parce que c'est souvent à eux qu'on délègue le travail de transmission. Et les ouvriers voient dans ces jeunes apprentis de futurs concurrents. Et ils n'ont pas tellement envie de jouer le rôle, justement, de fabricant de mon compétiteur de demain.
Plus éventuellement des brimades sexuelles.
Entre autres, oui.
Vous citez à bon escient, Stéphane Kaplan, Octave Greillard, c'était vice-recteur de Paris, personnage considérable de la mise en place.
Qui passionnant, oui.
Oui, ça, on peut aller admirer ou saluer sa statue qui a été rénovée récemment et qui est place Pain-Levé dans le square qui s'appelle maintenant Samuel Paty, je signale ça.
Je ne savais pas ça.
Eh bien, pour une fois que je vous apprends quelque chose, j'en suis ravi. Octave Greillard, en tout cas, a été, il faut y revenir, très préoccupé par l'effet de la machine, de la mécanisation. Oui. Il disait, la spécialisation substitue la machine au raisonnement, elle substitue la routine au progrès.
Voilà. C'était un de ses grands soucis C'était partagé par beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on va faire dans un monde où, aujourd'hui, on est obsédé par l'intelligence artificielle? C'était en quelque sorte la même chose pour Greillard. On décervelle les gamins, on leur donne une tâche à répéter pendant 30 ans, s'ils vivent jusqu'à 30 ans.
Les temps modernes de Charlot.
Voilà, exactement.
Le moteur de fer remplace, disait-il, le moteur de chair.
Oui. Et là aussi, et je veux insister sur ce point, Greillard est scandalisé par le dédain des Français pour le travail manuel. Et il veut faire un pré-apprentissage où on oblige les gamins à l'école, avant d'obtenir leur certificat, de pratiquer un peu sur le bois et sur le métal pour qu'ils puissent après apprécier que le travail manuel est un travail de la tête aussi bien qu'un travail des mains.
Au début des années 1950, je peux en témoigner, on avait un inspecteur de l'éducation nationale, Louis-François, avait voulu lancer le principe des sixièmes nouvelles où, tout en faisant ses études normalement, on était aussi initié à des travaux de bois ou de fer. Ça n'a pas duré longtemps. Mais cette question du discrédit dans une société, du travail manuel est évidemment fondamental. Et c'est ce que refuse un personnage que je vais vous donner à entendre, qui s'exprime au nom de l'État en octobre 1979. Il le refuse tout en laissant peut-être, vous en jugerez, perdurer quelques condescendances à l'égard de l'apprentissage. Il rend visite au centre de formation des apprentis de la Chambre des métiers des Deux-Sèvres, à Niort. Écoutez-le, je n'ai pas besoin, je crois, de le désigner.
L'apprentissage est aussi ancien que la technique. Dès que l'homme a commencé de maîtriser des moyens de production, il a transmis son savoir par l'exemple et par le conseil. C'est grâce à lui que certaines de nos techniques, les plus prestigieuses, les plus célèbres, dans les métiers d'art notamment, ont pu être conservés. Eh bien, malgré sa longue histoire, l'apprentissage reste un type de formation moderne et bien adapté à nos sociétés. Je suis convaincu que tous ici, dans cette salle, pré-apprentis et apprentis, vous vous féliciterez dans l'avenir du choix que vos familles et vous-même avait fait en faveur de ce mode de formation. Mesdemoiselles et messieurs les apprentis, j'affirme et je souligne que l'apprentissage possède la même valeur, mérite la même considération et doit conduire aux mêmes promotions sociales que l'enseignement général.
On a là, dans la bouche de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, une affirmation qui mérite l'attention.
C'est un cri de cœur, quelque part, parce que le problème, c'est que, est-ce que l'apprentissage est de la formation, il dit, c'est absolument nécessaire, ou est-ce que c'est une forme de relégation? Et pendant un certain temps, au 19e, c'était cela. C'est-à-dire, c'était le fruit d'un libéralisme social. Or, Giscard était très attentif, entre autres, au modèle allemand. Ce modèle obsède les Français pendant tout le 19e. Les Allemands, eux, sont arrivés à avoir un système d'apprentissage qui fonctionnait merveilleusement bien et qui était bien considéré par le public et qui permettait au 20e siècle, aujourd'hui par exemple, à des jeunes gens de passer par l'apprentissage et de revenir à l'université après pour devenir ingénieur à 30 ans. Aujourd'hui, je crois que 19% des jeunes Allemands à peu près sont en apprentissage. En France, c'est 3-4%. Et l'apprentissage est un peu dévoyé aujourd'hui parce que ce sont des gens souvent, même majoritairement, bac plus 3 ou 5.
Jusqu'à 30 ans désormais.
Ils font ça, voilà. Et jusqu'à 30 ans en plus. C'était pas le cas au 18e ou au 19e.
Mais le nombre a augmenté beaucoup depuis 2-3 ans, depuis la loi de 2018.
Donc je crois que Giscard, encore, il a sa façon, il cristallise ces grandes questions. C'est quoi l'apprentissage? C'est une formation. C'est aussi une façon de résorber le chômage. Mais souvent, les deux buts sont en tension. Et on ne peut pas toujours réduire l'apprentissage à un mécanisme pour réduire le chômage, comme voulait faire, par exemple, M. Hollande, qui avait de bonnes intentions, mais hélas, de mauvaise chance, où aujourd'hui, M. Macron atteignant le million d'apprentis, c'est un rêve impossible.
On verra bien, on va voir.
On va voir. Mais quand on regarde de près, qui sont ces apprentis? Ce sont pas des futurs ébénistes, ce sont pas des futurs mitrons, c'est autre chose.
On a quand même tranché sur les méfiances du 19e siècle à cet égard. Il y a eu un recul de la méfiance de l'époque il y a 100 ans. Je vois ce que disait un économiste qui était aussi un industriel, Julien Hayem, qui s'interrogeait à l'époque.
Hyper libéral.
Oui, mais c'est intéressant de faire entendre cette voix justement parce que c'est l'extrême pointe du libéralisme dans le domaine qui nous occupe, c'est-à-dire le domaine de l'apprentissage. L'industrie et le commerce ne sont-ils pas assujettis à un grand nombre d'obligations, disait-il. Ouais. Il citait l'obligation de n'employer les enfants et les filles que pour un temps déterminé, alors que ça nous paraît aujourd'hui assez naturel. L'obligation d'instruire tous les enfants, c'était pesant pour lui. L'obligation d'observer le repos hebdomadaire pour tout notre personnel ouvrier. Bon, l'obligation de verser une lourde contribution pour la retraite ouvrière, l'obligation d'assurer contre les accidents du travail tout notre personnel ouvrier. Chaque jour, ajoutait-il, nous sommes sous le coup de nouvelles vexations, de nouvelles tracasseries.
C'est un texte magnifique et effrayant. Et c'est ça qui en quelque sorte, incarne ce libéralisme dur, dit réaliste, mais dur. Et c'est ça qui, Placide Astier, qui vivait un moment très peu placide, il est allé en Allemagne, il est allé un peu partout. Il a compris qu'il fallait absolument former la jeunesse. Il a dit, il y a entre 750 et 1 million de jeunes qui ont besoin d'être formés. Mais il abandonne l'idée de les mettre en apprentissage. Trop d'opposition, trop de crainte d'un retour de corporatisme. Il dit, on va leur donner des cours. Mais des cours obligatoires. Et ça, c'est aussi un débat absolument fascinant. L'obligation est un mot qui, pour les libéraux, est un anathème.
Il faut préciser qu'il était Astier, qui est l'auteur d'une loi, Placide Astier, qui était l'auteur l'inspirateur d'une loi d'après-guerre.
Avant la guerre, il essaie, mais avec un acharnement, de trouver un mécanisme institutionnel pour faire revenir une forme d'apprentissage. Et il n'arrive pas, donc il accepte cette notion des cours de soir obligatoires. Et il meurt avant la guerre, et comme un geste de reconnaissance rétrospective, on nomme la loi Astier de 1919.
La loi d'Astier.
Oui, pour lui. Et qu'est-ce que dit cette loi? Peu de choses. Il dit que oui, ça sera obligatoire de former les gens au moins, j'oublie combien d'heures par semaine. Ils abandonnent l'ordonnance réelle qui était appelée le mi-temps. C'est trop lourd pour les patrons. Mais il y aura quand même 4 heures par semaine ou 6 heures par semaine. Qui va le payer? Il dit pas.
Mais donc, c'est une conséquence d'une date qui est importante pour notre sujet de l'apprentissage. C'est évidemment la création de l'école obligatoire. Jusque-là, les apprentis n'étaient pas contraints, Jules Ferry, qui n'étaient pas contraints de suivre cette école. Et c'est là qu'il faut rappeler ce qu'a été le grand débat entre ce qu'on peut appeler l'école et l'atelier. Dites-nous-en un mot, s'il vous plaît, Stephen Kaplan.
Ce débat qui est basé sur la notion, les gens qui étaient les écoliers, les écolistes comme je les appelle, ils disent, regardez le 19e siècle, c'est la preuve que l'atelier est un échec total. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le crime des jeunes, ça nous donne les débordements terribles des patrons, ça nous donne un bordel sans nom. Donc, évidemment, l'atelier ne peut pas faire l'affaire. Donc, il faut former les jeunes gens, principalement à l'école. Il faut mettre à l'école des ateliers de diverses sortes pour qu'on puisse donc articuler la partie théorique et la partie pratique. L'atelier répond, contre-attaque, en disant, et l'atelier c'est qui? C'est le monde du travail, c'est les entrepreneurs, c'est les industriels, et ils disent, non, à l'école, on n'apprend rien. À l'école, c'est la théorie, c'est pas pertinente, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé, ce sont des agrégés, on n'a pas besoin de l'université. Il y a cette forte esprit anti-intellectuel, on ne veut pas ces gens-là dans notre affaire, mais on veut bien donner quelques heures par semaine d'enseignement général.
Giscard d'Estaing l'évoquait déjà tout à l'heure dans son, voilà, dans son propos. Pour illustrer cette opposition entre deux écoles de tempérament, peut-être du côté des apprentis eux-mêmes, et pour donner une tonalité positive à cette évocation de l'apprentissage, pour finir, parce que nous approchons de la fin de notre conversation, Steven Kaplan, écoutez cette interview de deux apprentis en ébénisterie. C'est un extrait d'un reportage qui a été réalisé au Centre de formation des apprentis d'Orléans en 2003, diffusé sur France Culture. Ils disent beaucoup de bien de l'apprentissage.
Moi, c'est vraiment le choix, c'est pas du fait que j'étais mauvais à l'école, c'est vraiment parce que c'était le métier qui me plaisait et voilà, c'était pas en faisant un bac que j'arriverais à faire. Donc, sinon, au niveau scolaire, j'ai fait de l'anglais renforcé, j'ai fait. Enfin, j'étais pas dans les plus mauvais, quoi, c'est pas pour me vanter, mais. Donc, quand je suis sorti de 3ème, je vous disais, les profs, oh bah non, c'est dommage, tu vois, tu pourrais faire autre chose, tu pourrais faire un bac commercial, tu pourrais faire. Moi, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Et je leur ai dit, c'est pas parce qu'on va en apprentissage qu'on est mauvais, je dis, bah, la preuve. Mais bon, les professeurs du cursus scolaire, enfin purement scolaire, ils aiment pas trop. J'ai pas pu me l'expliquer, et eux, c'est pareil, ils ont pas su me donner une raison valable. Pourquoi rester dans le cursus scolaire normal alors que partir en apprentissage c'était moins bien ou mieux ou... Je sais pas du tout, ça c'est un truc que j'ai jamais pu m'expliquer et qu'ils ont jamais pu m'expliquer non plus.
J'ai toujours aimé bricoler. Chez moi j'ai des granges et tout ça, des hangars où j'ai la possibilité justement de bricoler, de faire des choses et tout ça. Et j'ai toujours aimé même travailler manuellement, quoi. J'ai toujours aidé mon père à travailler. Et puis même c'est un plaisir, c'est une satisfaction personnelle quand on sort une belle pièce, on est fier de nous, quoi. Toucher la matière bois, c'est une matière qui est noble, qui est chaude, je sais pas, c'est une bonne matière, je trouve. Plutôt que le métal ou le ciment, j'ai préféré ça. C'est mieux. Enfin, je pense, c'est mon avis. Mon père, il est bûcheron et ça aide, ça va m'aider, je pense, dans ma progression en ébénisterie. Comme ça, je pourrais avoir le bois et tout ça, ça sera assez sympa. Je pourrais faire des belles choses comme ça. L'école, c'était pas du tout mon truc. J'avais des bonnes notes, mais ça me plaisait pas le principe en lui-même, quoi. Donc l'apprentissage, c'est bien, on peut alterner le travail et l'école. Ça fait des pauses, ça fait des breaks, et comme ça permet de souffler pendant le travail. Après, on reprend l'école, ça fait du bien quand même, parce que ça repose, on est assis. Parce qu'au travail, on est debout toute la journée. Mais on peut quand même mieux bouger dans une entreprise qu'à l'école, donc les deux sont bien. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de vacances, mais on ne peut pas tout avoir.
C'est un hommage, Steven Kaplan, au combat de votre cher Placide Astier, et d'autres aussi, à la fin du XIXe siècle, le chimiste et ancien ministre Jean-Baptiste Dumas, qui était président de la Société de protection des apprentis, qui pourtant avait pris souvent des positions très conservatrices, très hostiles à toute organisation du monde des apprentis et des ouvriers. Dumas met en garde contre le dénigrement du travail manuel en écrivant « Ne présentez jamais aux enfants le travail manuel comme une tâche pénible et déplaisante ». Et on voit un syndicaliste socialiste, Auguste Keufer, qui dit qu'il faut une propagande incessante pour combattre la peur irrationnelle de se noircir les mains et pour montrer au contraire que le travail manuel est une source de dignité et de joie. Ça, c'est un texte de 1917.
Ces deux jeunes gens, j'ai bien aimé ce qu'ils disaient. Je suis pas un échec scolaire. J'avais des bonnes notes tous les deux. Je suis intelligent, mais mon intelligence m'a amené vers une matière noble. Dans mon cas, le bois, mais ça peut être la farine, ça peut être le métal, ça peut être le ciment.
La farine qui vous est si chère.
Évidemment.
Spécialiste du pain.
Donc là, c'est comme tous les maîtres n'étaient pas méchants et oppresseurs, comme tous les parents n'étaient pas cupides. Tous les apprentis ne sont pas grands bêtes et forts. Il y en a qui sont très très fins et qui ont une bonne idée de ce qu'ils veulent faire. Donc là, oui, c'est la quintessence même de ce débat. Est-ce qu'en France, on peut trouver une place pour ces jeunes gens qui veulent avoir une moyen alternatif, avoir la possibilité de dire aux gamins en sortant de troisième qu'il peut faire un choix qui n'est pas un choix péjoratif, si je puis dire, qui n'est pas un choix négatif, mais qui serait un choix très épanouissant, et d'avoir derrière cette idée-là une force morale et culturelle de la part de tout le monde dans l'éducation nationale, ce double témoignage me touche beaucoup parce que ça nous rappelle quand même qu'on doit proposer aux jeunes des alternatives qui ne sont pas marquées de façon négative, qui ne sont pas hypothéquées par des jugements moraux et intellectuels. Et puis il y a toujours le modèle allemand qui est passionnant. Si on arrive à articuler les choses autrement, on peut rentrer dans un apprentissage et on peut revenir après à l'université quand on est plus mûr et quand on est mieux à même à justement faire un cursus un tout petit peu contraignant. Mais le système français est trop rigide et je crois que le poids du passé est en quelque sorte étouffant.
Mais on peut aussi le surmonter. C'est la première fois que l'on prononce le mot de l'alternance, en somme. C'est au cœur d'une réflexion. Merci. Je dirais que je peux témoigner, nos auditeurs aussi, que vous n'êtes pas Stephen Kaplan, un Américain qui ne comprend rien. et vraiment, je vous remercie de nous avoir fait réfléchir à cette question de l'apprentissage qui révèle beaucoup de choses sur l'équilibre d'une société, sur sa vision d'elle-même et sur la manière dont elle peut organiser ses pulsions, ses sentiments, ses représentations.
Merci à vous, c'était un bon moment pour moi.
Votre livre sur lequel j'ai fondé notre conversation, Stephen Kaplan, s'appelle « Transmettre, soumettre, socialiser ». Et c'est sur l'apprentissage depuis Colbert jusqu'à la Grande Guerre. Sur la couverture, il y a une peinture remarquable qui montre des verriers au four avant 1914. Une peinture de François-Marie Firmin-Girard. C'est vous qui l'avez choisi ?
Oui, avec mon éditeur. Mon éditrice.
Il s'agit de Fayard, donc Collection Histoire 2023. Et vous avez aussi, c'est un sujet qui vous occupe, qui vous préoccupe de longue main, vous avez publié un livre qui s'appelait « La fin des corporations » déjà chez Fayard en 2001. Et puis je ne me dispenserai pas d'évoquer un livre, le grand livre que vous aviez consacré au bicentenaire de la Révolution française, publié en français et en anglais aux États-Unis, qui s'appelait « Adieu 89 ». Déjà l'édition Fayard, vous êtes un fidèle.
Un fidèle parfois.
Je n'entrerai pas dans ce champ davantage. Merci beaucoup Stephen Kaplan. Vous pourrez trouver les références des documents sonores que nous avons utilisés sur notre site qui vous est désormais familier. Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, et vous pourrez également écouter, réécouter et bien sûr podcaster cette émission.
Tu arrives à l'âge où l'on commence à réfléchir à ce grand voyage qui sera ton avenir, si l'on envisage cette grave décision, que pourrais-tu faire, mon garçon? Tu pourrais tailler dans la pierre, ciseler le fer et l'acier, imprimer des mots, tenir un rabot, mon fils, choisis ton métier.
J'aimerais mieux dompter dans les plaines des chevaux sauvages et racés, lancer le lasso comme buffalo. Cowboy, c'est un bon métier.
Et bien sur le fond d'une chanson qui s'appelle « Choisis ton métier » que nous devons à Yvette Giraud en 1956, je vous rappelle que vous venez d'écouter « Concordance des temps » d'une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec la prise de son Geoffrey Marianne, avec la discothèque Nathalie Rouvillain et avec Arnaud Planson pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et comme toujours, nous sommes redevables à la documentation et à la phonothèque de Radio France, sa bibliothèque aussi.
Choisis donc, mon garçon, le métier que fait ton papa.
Oh alors, maman, j'ai bien le temps d'y penser.
France Culture présente « Vers un pays lointain », dialogue sur l'Antiquité. Un voyage inspirant dans le passé pour découvrir les richesses du temps et mieux comprendre notre présent.